grand-mère les appelait les bohémiens. Eh bien, bonjour. Aujourd'hui, ça va être une émission qui est consacrée à une interview de quelqu'un qui est, on va dire, un grand militant dans la communauté des gens du voyage. Il s'agit de Milo Delage. Eh bien, vous allez entendre, mais il faut que je vous précise, comme d'habitude, que au cours de cette émission, vous entendrez un certain nombre de musiques. Donc, comme d'habitude, la musique des génériques de début et de fin est de Jean-Philippe Leclerc. Mais vous entendrez également des chansons qui ont été choisies par Milo lui-même. Donc vous entendrez Alma de Fuego, Daniel Guichard et Jean Gabin. Et je laisse la parole à Milo Delage.
Assis, les mains en poche, sur une banquette de métro, il est bientôt 5 heures. Il va commencer son boulot. Une vieille guitare qu'il traînait depuis tant d'années. Désaccordé, mais il va la faire sonner. Parfois il voudrait bien mourir, le vieux gitan, de la monnaie que l'on lui jette, il est honteux. Il baisse la tête de regard triste et dit merci, sans le savoir où lui avait rendu la vie. Alors il prend son instrument, le pauvre vieux, plus fort que mille guitares, le pauvre vieux. Bien sûr qu'il a rêvé d'être un grand musicien, mais dans la vie on ne choisit pas son destin. Un jour ou l'autre, le vieux gitan nous quittera dans les couloirs de ce métro. Il manquera toutes les chansons qui font penser à la Camargue, toutes les chansons qu'il a chantées toute sa vie.
Eh bien, je suis toujours au Sainte-Marie de la Mer et en face de moi, j'ai Milo Delage. Ben Milo, plutôt que de te présenter, que je te présente plus exactement, je vais te laisser te présenter toi-même.
Ben c'est gentil, donc oui, je suis Milo Delage, je suis d'ailleurs Jean du Voyage et si tu veux, je me suis investi pour défendre notre culture et notre mode de vie. Donc pour s'investir, il fallait faire comme les Gadjé, il fallait monter une association pour être connu. Donc, si tu veux, j'ai monté une association qui s'appelle France Liberté Voyage, et puis qui est que des gens du voyage, hein, qui sont uniquement voyageurs d'ailleurs, parce qu'il y a des gens de voyageurs, des gens du voyage sédentaires, et après il y a des gens du voyage itinérants. Donc je représente les gens du voyage itinérants en France, laïcs, par le biais de cette association qui est France Liberté Voyage.
Alors tu me dis, les gens du voyage voyageurs, et en fait il y a des non-voyageurs.
Oui, il y a des non-voyageurs, il y a beaucoup, si tu veux, qui sont des gens du voyage, mais qui ne devraient plus avoir l'appellation gens du voyage parce qu'ils ne voyagent plus. Mais dans leur tête, c'est toujours des gens du voyage. Alors ça veut dire que c'est... Comment expliquer ? Eh bien, on est toujours du voyageur, même quand on ne voyage pas, quoi, voilà, tout simplement. Mais c'est vrai que ce n'est plus les mêmes besoins, c'est vrai que ce n'est plus la même vie. Tu rentres dans un droit qui est comme les gadgets, quoi. Si tu vis en maison, tu n'es plus gens du voyage. Alors beaucoup... font un peu les deux. Ils ont jettent un terrain, ils l'aménagent, ils restent 7-8 mois, ils partent 3-4 mois d'été et ils reprennent la route. Et puis il y en a qui se sédentarisent définitivement et puis après ils sont toujours gens du voyage dans leur tête. Et puis nous on les respecte aussi en tant que gens du voyage du moment qu'ils gardent nos coutumes et le respect que nos vieux nous ont enseigné. Quoi.
Et alors toi, tu as voyagé toute ta vie ou ça t'est arrivé de te sédentariser ?
Alors moi j'ai voyagé toute ma vie parce que mes arrière-grands-parents qui étaient en 1850 du côté de Saint-Jean-d'Angély dans les Charentes-Maritimes se sont mis sur le voyage et donc de parents, en petits, en enfants, en petits-enfants, on s'est retrouvés sur le voyage quoi. Donc moi mon père a été sur le voyage, son père aussi, donc son arrière-grand-père aussi et on s'est retrouvés toujours sur le voyage et c'est donc mon père en plus sur le voyage, elle a fait 11 enfants. Et donc, je suis l'aîné de cette grande famille d'enfants. Et on a toujours été sur le voyage et on continue notre mode de vie. Maintenant, qui est le voyage, qui est pour nous une priorité. Parce que c'est ce qui nous a permis de pouvoir évoluer, de survivre aussi par rapport au biais du métier qu'on a sur le voyage. Et notre père nous a appris à travailler, à devenir des gens du voyage qui travaillent.
Oui, mais moi j'ai cru, enfin tu vas me confirmer ou infirmer, mais ça devient de plus en plus difficile de voyager.
Oui, mais quand on a ça dans le sang, quand on est voyageur, on s'habitue à toutes les situations. Et c'est la force d'un voyageur, ça. C'est-à-dire que tu voyages, des fois ça se passe très bien, tu es bien accueilli. Des fois, tu n'es pas bien accueilli, puis des fois, tu n'es pas bien accueilli du tout. Et il fallait se structurer. Donc, c'est pour ça que j'ai créé cette association qui s'appelle France Liberté Voyage, pour se défendre par rapport au droit. Parce que le droit, il est très clair. Il y a le droit européen, d'ailleurs, que la liberté d'aller et de circuler librement, hein, qui est le traité de Schengen. Et après, en France, il y a la loi Besson, qui oblige les communes de plus de 5000 habitants à avoir des terrains d'accueil, ou alors des terrains de moins de 5000 habitants qui doivent être des terrains sommairement équipés de 48 heures en 15 jours, pour pouvoir nous accueillir. Donc ce droit, les voyageurs le méconnaissent ou ne savent pas le faire valoir. Et il fallait le faire par le biais d'être une association reconnue. Donc c'est pour ça que j'ai créé France Liberté Voyage. Après, on a fait quelque chose de plus encore important. On a fait créer l'UFAT. Je suis à l'initiative d'avoir créé l'UFAT. L'UFAT, c'est l'Union Française d'Associations Tziganes, qui regroupe en ce moment près d'une soixantaine d'associations. Tous les jours, on me demande, pas tous les jours, mais parce que une fois par semaine, on me demande des associations viennent nous rejoindre. Hein. Donc, encore hier, on m'a demandé d'une association qui se trouve à Halle, qui s'appelle Samu Diraripen, qui a demandé à nous rejoindre l'UFAT. Et en ce moment, j'ai 6 associations qui vont vouloir nous rejoindre au mois de septembre pour justement être dans cette force que des voyageurs se défendent par nous-mêmes. Quoi.
Mais j'aimerais quand même que tu parles des difficultés du voyage, parce que nous autres, Gadget, les Romains Michel, les Bohémiens, les voleurs de poules, tout ça, mais on connaît pas du tout vos difficultés. Par exemple, bon, j'en ai déjà parlé un peu, abordé le problème dans une autre émission, mais j'aimerais que tu nous parles des contraintes que vous avez, comme le carnet de circulation, etc.
Oui, mais d'abord, la difficulté du stationnement, ça c'est ça. Les communes savent qu'ils ont une obligation. Seulement 20% de communes en France ont respecté leurs obligations. D'ailleurs, nous, si... Alors en plus, malheureusement, on a eu un ministre de l'Intérieur qui s'appelait Sarkozy, qui a fait des lois encore plus répressives contre nous, hein, qui sont les lois sécurité intérieure. C'est-à-dire que, par exemple, une municipalité, si elle a respecté ses obligations, elle peut nous faire nous expulser. Donc on risque 3 750 euros d'amende, retrait du permis de conduire, saisie du véhicule tracteur, 6 mois de prison avec sursis. Et ça, par contre, un maire, lui, qui ne fait pas d'aire d'accueil, qui ne propose pas d'accueil, il ne risque rien. Donc c'est pour ça qu'il a fallu s'investir. Dans un certain sens, Sarkozy nous a réveillés, parce que par rapport à ces lois discriminatoires par partie de la population française, il fallait se défendre contre ça. Et donc c'est ce que j'ai fait. Donc il a fallu se structurer, je me suis structuré, j'ai passé dans plein de procès que les municipalités ont intenté contre nous en disant qu'on faisait du stationnement illicite, alors que c'était eux qui n'avaient pas respecté leurs obligations. Et maintenant, il y a même le syndicat des avocats de France qui s'est engagé à nous défendre. Donc tout ça, je suis parfaitement structuré. Et beaucoup de décisions de justice nous sont favorables maintenant. Sur 10 décisions de justice, on a 9 fois, on a gain de cause, quoi. Donc c'est bien. Mais ce que je voudrais, c'est que justement par rapport... il faut une évolution. Il faut qu'on soit reconnu comme des citoyens français à part entière. Donc ça, c'est important que ça le devienne. Donc c'est pour ça qu'il y a une proposition de loi qui va se faire là, normalement en juillet ou début de l'automne. C'est en cours. Hein. Même le Premier ministre a nommé un préfet qui s'appelle Hubert Desrache, qui est un super préfet, qui doit donner son rapport vers autour du 15 juin pour justement une amélioration des conditions de vie des gens du voyage qu'on a. Alors, on est une grosse population en France, mais on ne s'est jamais vraiment pris en main. On a toujours laissé faire les gadgets à notre place. Et ça, ça n'a pas été bon pour nous. On a les résultats de ça depuis des années et des années. Ça n'a pas avancé. La seule chose qu'on a pu faire avancer, c'est que nous, on se prend en main. Donc la première des grandes victoires qu'on a eues, et elle est très importante, c'est d'avoir fait le recours au Conseil constitutionnel par rapport au carnet de circulation. Ce carnet de circulation était une obligation de l'avoir et puis aller tous les 3 mois à la gendarmerie ou au commissariat pour prêter, quoi, on va dire, c'était un contrôle judiciaire. Et donc était une grosse discrimination, et le recours au Conseil constitutionnel, on l'a fait par le biais de nos avocats Olivier Lemayou et Henri Braun. Et le Conseil constitutionnel, le 5 octobre 2012, nous a donné raison. C'était une discrimination à l'encontre d'une certaine catégorie de la population française. C'est une grande victoire. On a eu ce mérite-là, mais c'est pour ça qu'il faut que l'on compte sur nous. Et c'est pour ça qu'on s'est investi à défendre notre cause, quoi.
Mais il reste encore... je ne sais plus comment ça s'appelle, mais il reste encore quelque chose.
Voilà, il reste encore quelque chose. Il reste encore les livrets de circulation et la commune de rattachement, qui est la loi 69. Alors, justement, on nous demande la suppression de ça. D'ailleurs, M. Hollande, je l'avais rencontré avant les élections, et il m'avait dit, monsieur, si je suis devenu président, c'est sûr que vous n'aurez plus ces titres de circulation. Alors, bon, c'est vrai qu'en ce moment, il y a Hubert Desrache qui est en train de faire un rapport et qui consulte un peu tout le monde. Moi, il nous a auditionnés, moi et M. Chetsemil et M. Alain Domas de l'UFAP. Personnellement, il m'a auditionné 2 heures. Il a vraiment pris des notes pour nos futurs besoins, qui est la suppression de la loi 69. Alors, de toute manière, si ça ne se fait pas, cette proposition de loi, on a fait un recours à la Cour européenne des droits de l'homme avec Olivier Lemayou. Hein. Qui vient de se faire il y a un petit mois et demi en arrière. Donc de toute manière, on attaque la France pour discrimination liée à la loi de 69. Mais j'ai confiance en ce gouvernement. Je pense qu'ils vont faire une proposition de loi qui sera faite par M. Dominique de Rimbourg, le député de la Loire-Atlantique. Et pour nous, c'est important parce qu'on veut devenir des citoyens français à part entière, avec des droits, des devoirs, mais avant tout, être des citoyens. Et mon objectif, c'est, et puis je crois que j'ai concerté beaucoup de voyageurs, c'est de ne plus s'appeler gens du voyage. C'est de s'appeler Français itinérants. Voilà. Ça serait bien. Et puis après, il y a des Français sédentaires ou des Français itinérants. Donc les Français itinérants, tout le monde peut voyager, tout le monde peut se sédentariser aussi. C'est un choix de vie, quoi, tout simplement. Mais Français itinérants, c'est important de s'appeler comme ça pour qu'il n'y ait plus d'amalgame, parce qu'on mélange tout le monde par rapport à gens du voyage.
Son vieux par-dessus râpé, il s'en allait l'hiver, l'été, dans le petit matin frileux. Mon vieux, il n'y avait qu'un dimanche par semaine, les autres jours c'était la graine qu'il allait gagner comme on peut. Mon vieux, l'été, on allait voir la mer. Tu vois, c'était pas la misère. C'était pas non plus le paradis. Et ouais, tant pis. Dans son vieux par-dessus râpé, il a pris pendant des années le même autobus de banlieue, mon vieux. Le soir, en rentrant du boulot, il s'asseyait sans dire un mot. Il était du genre silencieux, mon vieux. Les dimanches étaient monotones, on ne recevait jamais personne. Ça ne le rendait pas malheureux, je crois, mon vieux. Dans son vieux par-dessus râpé, les jours de paye, quand il rentrait, on l'entendait gueuler un peu, mon vieux. Nous, on connaissait la chanson, tout y passait, bourgeois, patron, la gauche, la droite, même le bon Dieu, avec mon vieux. Chez nous, il n'y avait pas la télé, c'est dehors que j'allais chercher. Pendant quelques heures, l'évasion, je sais, c'est con. Dire que j'ai passé des années à côté de lui, sans le regarder, on a à peine ouvert les yeux, nous deux. J'aurais pu, c'était pas malin, faire avec lui un bout de chemin. Ça l'aurait peut-être rendu heureux, mon vieux. Mais quand on a juste 15 ans, on n'a pas le cœur assez grand pour y loger toutes ces choses-là. Tu vois, maintenant qu'il est loin d'ici, en pensant à tout ça, je me dis, j'aimerais bien qu'il soit près de moi. Papa.
Oui, non, ça me faisait penser là à une petite phrase que j'ai vue de Matteo Maximoff qui disait que finalement, maintenant, avec l'époque moderne, c'était les gadgets qui prenaient la route dans leur caravane.
Alors, dans un certain sens, c'est vrai, parce que si vous voulez, vu la difficulté du stationnement, comme beaucoup de voyageurs n'ont pas su réagir comme moi j'ai pu réagir, c'est-à-dire se structurer, être capable de venir sur n'importe quelle commune de France et pouvoir stationner le temps qui nous est nécessaire, tout en ayant l'eau, l'électricité, parce qu'en une époque moderne. Alors c'est vrai qu'avant les voyageurs voyageaient plus parce que les femmes étaient moins exigeantes aussi, ils avaient besoin, pas besoin d'eau, ils avaient lavé le linge dans les ruisseaux, ils lavaient le linge dans les lavoirs, mais maintenant aller dire à une femme d'aller le linge dans un ruisseau, dans un lavoir, alors ça peut pas aller. Et puis s'éclairer avec des bougies, ça ils veulent pas non plus. Alors il faut suivre le cours de la modernité, hein, c'est important de le dire, et c'est ce que j'ai fait. Alors si vous voulez, moi je suis parfaitement structuré. J'ai l'électricité sur tous les endroits où je m'installe. Alors, on est équipé avec des grands câbles électriques, on a des grands tuyaux d'eau pour prendre l'eau, le courant, et surtout on s'engage à payer tout ce que l'on consomme. Et ça, c'était important. Alors, il fallait le faire sur les communes de France où l'on passe, mais il fallait le faire, mais il faut que ce soit reconnu par les communes. Donc, depuis 2000, ça fait 6 ans à peu près que j'ai créé France Liberté Voyage, j'ai demandé à ce que toutes les villes de France ou les communes de France où on passe, qu'ils me fassent une attestation de bonne conduite. C'est-à-dire que comme quoi, qu'ils reconnaissent qu'on a payé l'eau, l'électricité et qu'on a laissé les lieux propres en fait la propreté. Donc, tu vois là, Jean, j'ai 250 attestations des villes de France où on a passé. J'en prends une au hasard, je ne sais pas laquelle que je vais t'embêter. Là, je tombe sur La Rochelle, toi. Suite au passage de votre association sur le territoire de la commune de Marcilly, prévu le 30 juillet 2007, je peux constater qu'à la date d'aujourd'hui, votre séjour s'est déroulé dans le mieux, dans le respect des règles convenues avec la communauté d'agglomération de La Rochelle, ce dont je vous remercie. Cordialement, tel, voilà. Et ça, il y a 250 attestations de l'île de France qui attestent que nous sommes des gens propres, corrects et respectueux. Donc, c'est un exemple que j'ai donné, qui est maintenant suivi par la majorité des gens du voyage. Donc, chez nous, il y en a encore que c'est des gens qui ne respectent pas, mais comme dans toute société, il y a des bons et des mauvais, quoi. Et des mauvais, c'est difficile de les faire revenir, mais ça évolue bien, ça va dans le bon sens. Ils se sont rendus compte qu'il faut respecter les communes qui nous accueillent. Et l'exemple que j'ai donné est suivi, donc je suis assez fier de ça aussi.
Mais alors, pratiquement, t'arrives avec tes moyens de transport, ta caravane ou ta roulotte, je sais pas, et tu te présentes. Comment ça se passe finalement?
Alors,
quand t'arrives?
Je vais t'expliquer comment que ça se passe. Ça dépend des communes. Hein. Bien souvent, je tâte le terrain pour savoir s'il y a un endroit pour nous accueillir. Mais alors, c'est des fois s'annoncer, c'est assez dangereux parce que s'il y a un endroit, ils savent où qu'on peut s'installer. Des fois, ils vont nous mettre. Si on s'annonce, ça m'est déjà arrivé plusieurs fois, ils mettent des blocs de pierre, ils mettent un tracteur devant, ils font des tranchées, ils empêchent toute arrivée possible. Alors, si c'est une commune que je sais qui est accueillante, je l'appelle, c'est pas de souci. Alors, il y a des régions qui sont très difficiles pour l'accueil. C'est la région, Rhône-Alpes, hein, c'est une des plus difficiles, surtout la Savoie, la Haute-Savoie. Et après, la région PACA. Donc, ces régions-là, on ne prévient pas. À part une commune ou deux, quoi. Une commune ou deux qu'on peut prévenir parce qu'on sait qu'ils vont nous accueillir. Et donc, on repère l'endroit. Alors, soit si c'est une pierre, on va défaire la pierre, puis on rentre aussitôt. Pour nous, la difficulté, c'est de s'installer. Mais une fois qu'on est installé, s'ils ne veulent pas nous accueillir, il faut qu'ils fassent une procédure. Et la procédure, après, c'est un référé ou une mise en demeure. Mais ça, on peut s'expliquer devant un juge. Hein. Et après, le juge, il prend la décision. Nous, on est dans un pays de droite, démocratie, on va s'expliquer devant. En tant qu'association, je vais m'expliquer. Par contre, si la commune n'a pas respecté ses obligations, systématiquement, on perd. Hein. Donc, c'est pour ça qu'ils ne veulent plus le faire. Et beaucoup de communes, commissaires qui sont en tort, ils essayent de bloquer tous les terrains possibles pour pas qu'on arrive. Quoi. Et donc, ça nous concerne à nous, ça concerne les missions énergétiques, ça concerne tous ceux qui voyagent. Et donc... Beaucoup ont arrêté de voyager par rapport à ça, quoi. C'est la difficulté. Mais moi, comme je suis un guerrier et que j'accepte pas que dans mon pays, on nous accepte pas à pouvoir stationner sur une commune, comme les communes doivent avoir l'obligation de nous accueillir, ils doivent nous accueillir, justement. On parle avec le respect des communes qui nous accueillent, bien sûr, c'est important. Alors, bon, c'est aussi, comme il arrive un groupe de gens de voyage sur une commune, faut pas oublier que ça fait travailler l'économie locale. Aller demander au boulanger, aller demander au boucherier, aller demander à l'épicier, si lui il va se plaindre des gens de voyage, dire non, parce que ça fait travailler l'économie locale. Eh bien, moi, je veux qu'on soit accueillis comme on accueille les étrangers, qui sont bien contents de faire venir des gens qui viennent en vacances. Eh bien, il n'y a pas de raison qu'ils nous occupent à nous, à condition qu'on respecte la commune qui nous accueille, bien sûr. Et aussi, il y a une autre chose qui est très importante, c'est que faut que nos enfants soient scolarisés. Et donc, mon combat est aussi que toutes les communes de France accueillent des Français itinérants qui stationne 15, 20 jours, un mois sur la commune, et que les enfants vont à l'école. Et moi, j'ai 9 petits-enfants, tous mes enfants savent lire et écrire, ça c'est bien se servir d'ordinateur que moi je ne sais même pas. Et donc après, jusqu'à 10-12 ans, ils font des cours par correspondance au CNED. Et c'est comme ça qu'on évolue, c'est comme ça qu'on peut vivre ensemble, avec le respect des uns des autres. Mais il faut que les communes respectent leurs obligations. Et c'est le combat que je mène.
Et tu me disais tout à l'heure, hors antenne, que tu représentais d'une certaine façon les gens du voyage auprès de l'Europe. Est-ce que tu peux m'en parler ?
Oui, c'est-à-dire qu'il y a le Forum européen des Roms et des gens du voyage qui s'est créé il y a à peu près 8 ans. Et il y a des personnes qui, au départ, le Conseil de l'Europe a pris les premiers venus, quoi. Hein. Alors là, ils ont pris des gens qui ne voyageaient pas, qui soi-disant étaient des gens du voyage, mais au bout de... parce qu'il y a un renouvellement tous les 4 ans. Et il y a 4 ans, ils se sont aperçus que les gens qui étaient au Conseil de l'Europe n'étaient pas du tout représentatifs des gens du voyage. Donc si, on a eu la chance qu'ils ont fini par tomber sur moi. Donc par le biais de ce que j'ai fait, parce que j'ai passé dans pas mal de émissions de télévision, j'étais assez médiatisé, et ils m'ont contacté. Alors, donc, c'est vrai qu'après, nous, on s'est investi. Alors, maintenant, on est rendu au Forum européen des Roms et des gens du voyage, parce que dans l'Europe, ils se disent tous Roms. Hein, ça soit en Allemagne, ils nous appellent les Roms, on est des Roms. Eh bien, nous, en France, on a voulu l'appellation gens du voyage, parce qu'en France, il n'y a pas que des Roms, il y a beaucoup de gens du voyage de toutes ethnies différentes. Il y a des Manouches, il y a des Sinti, il y a des Yéniches, il y a des Roms français, il y a des Gitanes, il y a des gens d'Andalou. Et donc, tous ces gens-là, maintenant, on les représente au Conseil de l'Europe. Donc il a fallu nommer une personne, donc on a nommé une femme qui s'appelle Francine Jacob, qui nous représente, qui est une Yéniche, qui reste du côté de Sier, en Haute-Savoie, qui est sédentaire, hein, qui ne voyage pas depuis 7 ans, et nous représente les gens de voyage au Forum européen des Roms et des Jouets, et moi je suis son suppléant. Alors suite à ça, on a fait aussi récemment, là, le Conseil de l'Europe a voulu des médiateurs au niveau de l'Europe, hein. Et donc on a dû faire une formation à Strasbourg, une formation en région parisienne. Et depuis un mois et demi, 2 mois, je suis nommé médiateur avec un diplôme au Conseil de l'Europe pour représenter les gens du voyage. Donc c'est très bien, c'est une bonne chose, il fallait. Je suis le seul médiateur itinérant européen, parce qu'il y en a 60 en tout, médiateurs dans tous les pays des 27 pays d'Europe. Et le seul qui, justement, a gardé son mode de vie, sa culture, de qui est le voyage, c'est moi. Et donc, je suis représentant, je suis médiateur au Conseil de l'Europe en tant qu'itinérant.
Et alors, on va revenir à toi, voyageur. Parce que c'est bien beau d'aller de ville en ville, c'est bien beau. Mais pour gagner ta croûte, comment tu fais ?
Ah ben justement, c'est ça. Alors, si tu veux, nous, mes arrières grands-parents étaient déjà des chineurs.
Je vais expliquer
qu'est-ce que c'est qu'un chineur. Chez nous, dans les voyageurs, on n'a pas de formation. Hein. Nous, la formation, c'est le père qui vous l'apprend, et c'est de père en fils, comme quand on devient chineur ou qu'on fait les marchés. On est tous débrouillards, hein, parce que la vie, nous, on va pas attendre d'être chômeur, on se débrouille nous-mêmes. Hein. Et ça, c'est inné, c'est dans nous. Hein. Alors, on est souvent commerçants de père en fils, et on sait tout faire, et on s'adapte à toutes les situations. C'est comme les problèmes de stationnement, on s'adapte à toutes les situations. Et pour gagner notre vie, le voyageur, il a ça, c'est que on fait quelque chose, ça marche pas. Eh ben on change, voilà. Alors, ben mon père, lui, était ferrailleur, et ça a marché. Et comme j'ai eu un certain âge, j'avais 18 ans, j'ai pu faire ce métier-là. Et j'ai été brocanteur. Donc j'ai fait la brocante, et puis après je me suis marié, j'ai toujours chiné de ma vie, c'est-à-dire chiné, c'est de faire du porte-à-porte ou de faire des marchés. Hein. Et en étant courageux, en y allant tous les matins, alors en étant des commerçants déclarés, on était au registre de commerce et tout, hein, voilà. Pendant 30 ans j'ai eu un registre de commerce, et ça mon père a fait 11 enfants, et chez nous il n'y a eu aucune délinquance, mon père nous a appris à travailler. Et ça, c'était une grande force que je remercie du fond du cœur, ce qu'il nous a appris. Parce que ce qu'il nous a appris, que son père lui avait appris, qu'il a transmis à moi j'ai transmis à mes enfants. J'ai 4 enfants, j'ai 3 garçons, une fille. Excuse-moi. Et bien, on les a tous appris à travailler. Et nous, on n'est pas riches, mais on est autonome. C'est-à-dire autonome, et c'est tellement important de pouvoir voyager, de pouvoir gagner sa vie sans demander rien à personne. Et donc on a un camion, enfin un fourgon, on a une caravane, une petite voiture. ça nous suffit. On change ça quand on peut. Hein. Des fois, on va garder une caravane 10 ans, des fois 5 ans, selon les moyens. Et puis, comme chez nous, il y a des plus chanceux, des plus courageux. C'est comme dans tout. C'est comme les sédentaires, c'est pareil. Il y en a qui vont faire le même métier, ils ne vont pas y arriver. L'autre va faire l'autre métier, il va mieux y arriver, ou plus chanceux, ou plus capable. Et bien voilà, c'est ce qui se passe dans le monde du voyage. Mais j'ai montré que l'ensemble du voyage qui voyage, des voyageurs qui voyagent, que je veux dire, ben, ils sont pas malheureux. Ils arrivent à avoir une caravane, un fourgon. Ou que ça devient plus critique, c'est comme je m'aperçus, c'est comme les voyageurs se sédentarisent. Eh bien, s'ils se sédentarisent, malheureusement, en restant toujours dans le même coin, s'ils font le même métier et qu'ils n'arrivent plus à s'adapter, eh bien, ils arrivent à finir dans la pauvreté. Et ça, c'est pour ça que moi, la sédentarisation, je dis que ce n'est pas une bonne chose, quoi.
Attends, tu dis que c'est pas une bonne chose parce que, alors si je comprends bien, un voyageur qui a été éduqué en tant que voyageur arrive à se débrouiller finalement en tant qu'il voyage et une fois sédentarisé, il a beaucoup plus de mal.
Oui, j'ai l'exemple type d'une émission de télévision qui a passé sur M6, je sais pas si tu l'as vu, mais ils ont montré les gitans de Montpellier sédentarisés. Hein. Donc malheureusement, ils ont montré l'extrême dans les deux sens. Parce qu'ils sont pas tous comme ça, bien sûr. Hein. Et ils ont montré les gens, les gitans sédentarisés, ils se retrouvent dans des ghettos, pas de travail, ils travaillent plus, ils essayent plus de se débrouiller par eux-mêmes. Et après, ils ont montré les voyageurs qui voyageaient. Et donc les autres voyageurs qui voyageaient, belle voiture, belle caravane, beau fourgon, ils restaient 15 voyageurs sur Montpellier, ils allaient autre part après. Donc qu'est-ce qu'il faut ? Il faut se sédentariser pour arriver comme ce qui se passe sur Montpellier, ou il faut continuer à voyager, d'être dans la difficulté du voyage, mais en étant particulièrement un peu mieux, quoi. Alors moi je dis non, ben, faut continuer à voyager, voilà, même qu'on a la difficulté du voyage, même qu'on a la difficulté de stationnement, il faut continuer dans ce sens-là. Voilà. Alors après, il y en a qui se sont sédentarisés puis qui ont très bien réussi aussi, hein, c'est pas une généralité de pas avoir réussi. Mais après, je trouve que comment on se sédentarise, on perd notre culture. C'est-à-dire que je me suis aperçu, je vais donner un exemple, hein. Il y a des familles que je connais très bien, je ne vais pas citer, qui sont en région parisienne. Ils sont sédentarisés depuis à peu près une trentaine d'années. Mais je n'ai pas le nom des familles parce que ça ne se dit pas. Alors maintenant, ces familles-là sont tous dans des petits terrains de 200, 300 ou 400 mètres carrés. On fait des grandes haies de chaque côté, un grand portail devant. Ils ont leur petite mobilhome ou leur caravane qui sont stationnées là. Et puis ces familles-là, ben, ils ne se parlent plus entre eux. Hein, il y a 7-8 familles. Tu vois personne dans la journée. Hein, parce qu'il y a ma fille qui a un terrain et que je vais des fois y passer 15-20 jours pour être avec elle. Mais qui a un terrain qui est tenu et qui nous permet de stationner, qui est à nous. Hein. Et le soir, 9-10 heures, tu vois leurs enfants qui sortent. Et là, il y a un lampadaire. Et leurs enfants sortent, se mettent tous ensemble, parlent, se retrouvent avec les cheveux verts, les cheveux rouges, des boules d'oreilles, avec un bitbul à la main, et ils fument le pétard. Voilà. Et ça, c'est les gens du voyage. Je donne de mauvais exemples, hein, mais ça existe, il ne faut pas se voiler la face. Ils sont sédentarisés. Alors, ben moi, je suis pas d'accord. Quoi. Ça ne devient plus des gens du voyage, ça devient des... Chez nous, ça n'existait pas, les pétards, ça n'existait pas, la drogue, tout ça. Mais la sédentarisation, je me suis aperçu que, malheureusement, c'est aussi... Et je me suis rendu compte que malheureusement la sédentarisation a apporté des choses que nous, qu'on n'aurait jamais cru que ça aurait pu arriver chez nous. Quoi, voilà. Alors il y a ça, bon, donc c'est ce que je défends, pas finir comme ça. Voilà.
Quand j'étais gosse haut comme trois pommes, je parlais bien fort pour être un homme. Je disais je sais. Je sais, je sais, je sais. C'était le début, c'était le printemps. Mais quand j'ai eu mes 18 ans, j'ai dit je sais. Ça y est, cette fois je sais. Et aujourd'hui, les jours où je me retourne, regarde la terre où j'ai quand même fait les 100 pas, et je ne sais toujours pas comment elle tourne. Vers 25 ans, je savais tout, l'amour, les roses, la vie, les sous. Tiens oui, l'amour, j'en avais fait tout le tour. Et heureusement, comme les copains, j'avais pas mangé tout mon pain. Au milieu de ma vie, j'ai encore appris. Ce que j'ai appris, ça tient en 3-4 mots. Le jour où quelqu'un vous aime, il fait très beau. Je peux pas mieux dire, il fait très beau. C'est encore ce qui m'étonne dans la vie, moi qui suis à l'automne de ma vie. On oublie tant de soirs de tristesse, mais jamais un matin de tendresse. Toute ma jeunesse j'ai voulu dire je sais, seulement plus je cherchais, et puis moins je savais. Il y a 60 coups qui ont sonné à l'horloge, je suis encore à ma fenêtre, je regarde et je m'interroge. Maintenant je sais qu'on ne sait jamais. La vie, l'amour, l'argent, les amis et les roses, on ne sait jamais le bruit ni la couleur des choses. C'est tout ce que je sais, mais ça je le sais.
Eh bien voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Je vais dire un grand merci à Nico qui va monter cette émission. Et puis, bah oui, c'est vraiment devenu une habitude. Sur le générique de fin, je vais vous lire un poème. Aujourd'hui, ce sera un poème de Félix Monget, dont le titre est « Retour de fête ». Baroque sous la lune rieuse, l'attelage brinquebale. Noyé de pénombre se découpent les buissons et les arbres destinés en creux de Chine. Voluptueusement, la nuit s'étale sur les cailloux argentés d'un chemin hasardeux. Invisible et entêtant, des orchestres de grillons s'accordent pour un hymne au bonheur. L'attelage brinquebale. Dans le creux d'un sentier, il laisse entendre un couinement de roues. Juste derrière, le glissement de pas qui râpe le sol. Du foyer d'une lanterne magique, le scintillement citronné des étoiles allume les rampes pour une représentation inattendue. Les derniers noctambules qui nichent aux armes fixent, d'un œil incrédule, l'étrange progression du cortège. Ils ne rêvent pas encore, ils devront attendre que naisse le jour. Baroque sous la lune rieuse, une grande et forte femme brune reprend son souffle. Elle remet à plus tard de faire avancer un fauteuil roulant qui s'est enlisé dans une fondrière. Esmé, dis-moi que tu m'aimes. Du fond de son siège, un vieil indien se redresse. Mi-ange, mi-fantôme, voilà longtemps déjà qu'il a cessé de se préoccuper du temps. De dessous la couverture qui chauffe ses jambes inertes, une bouteille de rosée a versé. Il s'en servirait bien un petit peu, mais il reste à peine du trésor. Mais oui, mon âme, je t'aime de tout mon ventre. Elle ne dira rien, mais simplement, finis le vin, qu'il te fasse chanter le cœur. Puis elle plonge la main entre ses seins où elle remise habituellement des cigarettes et un briquet. Baroque sous la lune rieuse, l'hidalgo de cristal accroche aux somptueuses crevasses de sa face la grimace de l'extase. Hier encore, ce sourire était du genre qui ravageait la tête de sa belle avant qu'elle ne s'enflamme comme Amadou. Vestige de ce temps de beauté quand sa force déquidée s'éteignait en ruade essoufflée. Il donne au vent pour sa caresse une crière de fil soyeux retenu par un bandeau. La force et grande femme brune s'est déchaussée. Elle ne marche jamais mieux que les pieds nus, les orteils comme des doigts puissants qui agrippent le sol. Adieu, jolies chaussures tellement inutiles sous la lune rieuse. Elle renoue avec la mode de son enfance. C'est ainsi qu'elle a appris à avancer. C'est ainsi que les voyageurs, ses parents et ceux d'avant allaient la terre, s'unissaient à elle à chaque pas, sans que jamais elle ne les blesse. Comme jadis l'immense Ardennais tendait le jarret tout à l'effort de remettre la Verdine au milieu du chemin, la grande et forte femme brune pousse le fauteuil roulant devant elle, comme s'il eût été une plume. L'attelage brinque-balle, il laisse entendre un couinement de rouille, un glissement de pas juste derrière. Sous la lune rieuse, l'homme redemande: Esmé, dis-moi que tu m'aimes.